Eh bien, Pascal, on attaque cette troisième et dernière partie qui va être un petit peu grosse et qui va terminer par une belle infrastructure assez technique, où effectivement, concrètement, ce qu'on fait dans Docker, en termes de Docker dans Azure. Donc, on va le voir dans ta démonstration, donc on va le passer rapidement, mais on a un marketplace dans Azure, et si on recherche Docker dans le marketplace, on va voir qu'il y a pas mal de choses qui apparaissent. Tu vas nous montrer juste après en démonstration, mais à retenir, parce
Tout à
qu'en
fait.
gros, il y a l'extension Docker Microsoft, il y a la Docker Trusted Registry, il y a une VM prêt à l'emploi que tu vas nous montrer comment déployer, et puis il y a des applications. Cette extension Docker, tu en as parlé tout à l'heure, elle vient simplement se greffer sur une machine virtuelle Linux existante qui est déjà instanciée dans Azure, Ubuntu récente ou CoreOS. Et cette extension va venir rajouter le moteur Docker, le client Docker, et également paramétrer TLS avec le certificat et les informations qu'on aura fournies lors de l'instanciation en fait, de cette extension et de l'ajout de l'extension à une VM donnée. Écoute, plutôt que d'en parler, plutôt que des mots, je te propose de
Allez,
basculer sur ton PC.
allons-y. Donc ici, je suis sur le portail qu'on connaît, hein, le nouveau portail en preview de Azure. Et dans ce portail, je peux aller dans le marketplace ici. Hop. Et dans le marketplace, je peux chercher des choses. Et par exemple, bah, tiens, on va chercher directement Docker, comme tu le montrais sur le PowerPoint. Et quand je cherche Docker, je vais trouver différentes choses. La première chose, c'est un Docker Trusted Registry, on en a parlé dans un module précédent. Donc, c'est ce fameux composant serveur qui va nous servir de repository privé pour nos images. Donc, associé à ceci, évidemment, il y a une licence à Docker qu'il va falloir régler pour utiliser le service.
Oui, précisons que tout n'est
Tout.
pas gratuit dans ce monde.
Bien
Et
sûr.
effectivement, cette instanciation de la TDR, etc. Docker en fait vend l'utilisation de la TDR, donc la Docker Trusted Registry, aux entreprises. Donc, si elles veulent avoir un dépôt privé, effectivement, ça a un coût. Et c'est un coût qui va dépendre du nombre d'instances de moteurs qu'on va avoir derrière et qui a un coût qui est mensuel, en fait.
On trouve également des applications sous forme de containers. Par exemple, ici, on voit WordPress plus MySQL, Elasticsearch, Redis, MongoDB, etc. Ce genre de choses-là. Donc, en fait, ce sont quoi ça? Ce sont des containers Docker qui vont nous être livrés, mais déjà installés sur une machine virtuelle Ubuntu avec le moteur Docker activé, bien configuré comme il faut, etc. Donc, c'est plutôt pratique. Et vous voyez, entre parenthèses, que ces containers sont fournis directement par Docker. Et enfin, au milieu, là, on a une machine virtuelle qui s'appelle Docker on Ubuntu Server. Et donc là, on va avoir un serveur Ubuntu déjà configuré avec le moteur Docker. Et cette image a été faite, remarquée, par Canonical et Microsoft, donc qui maîtrisent l'extension Docker du côté Microsoft, qui a travaillé avec Docker pour cette extension. Et puis Canonical, qui maîtrise son OS et qui a préparé l'installation.
Oui, rappelons Canonical est l'éditeur d'Ubuntu.
D'Ubuntu, évidemment. Donc, c'est ce que j'ai utilisé sur mon abonnement Azure ici pour créer une machine virtuelle que j'ai
Donc,
appelée Docker
si tu
VM.
veux en déployer, tu viens cliquer ici sur Docker en Ubuntu Server.
Voilà, j'ai fait ceci tout à l'heure.
Là, tu as un bouton Create en bas.
Create.
Voilà. Et là, il te demande les informations classiques d'une machine virtuelle.
Exactement. Donc, le nom de la machine virtuelle, le nom d'un utilisateur à créer sur cette machine virtuelle, son mot de passe ou une clé publique. Une clé publique SSH, si j'ai une clé privée, et puis les paramètres standards comme le niveau de puissance de la machine virtuelle hein, et le prix A1, A2, etc. La configuration au niveau du réseau, du stockage, des diagnostics, et puis le resource group, puisqu'on est dans un mode maintenant ISV2, et l'abonnement Azure, si j'en ai plusieurs, dans quel abonnement je vais disposer ma VM.
Donc, telle Maïté dans les grands jours, tu nous as déjà tu as
Bien
déjà
évidemment.
commencé la recette avant la démonstration, et donc tu as déjà
Et je sors du four le
directement
plat déjà
la
cuit
VM pré-créée.
que je vais trouver ici par son resource group que j'ai appelé Docker VM.
Voilà, rappelons qu'un groupe de ressources est dans Azure Nouvelle Génération, on regroupe plusieurs types de ressources dans un même container logique pour mieux les gérer. Donc là, on voit effectivement le cloud service, la machine virtuelle, le réseau virtuel sur lequel est connectée la VM et son stockage rassemblés dans une même interface qui simplifie largement son
Exactement.
administration.
Tu remarqueras que je suis allé un petit peu vite et je n'ai pas fait tous les choix de personnalisation au niveau des noms. Et j'ai des noms un petit peu exotiques,
Ouais,
mais uniques.
ça sent un petit peu
Ouais, tout à fait.
le quick and dirty, si tu peux me le permettre.
Exactement. Et donc, pré-cuit également la connexion SSH à ma machine virtuelle que j'ai faite juste avant que l'on vienne de vous parler. Et donc là, je me suis connecté en SSH à la machine virtuelle en question que je viens de créer. Et j'ai effectivement le moteur Docker qui est préinstallé et qui fonctionne.
Et le client sur la même machine.
Voilà, le client Docker, le moteur. Si je fais Docker version, je vois que c'est une version 1.8.3, donc une version somme toute assez récente du moteur Docker qui fonctionne ici de façon parfaite.
Et tu fais un Docker info ?
Docker info. On voit donc que je n'ai pas encore d'image ni de container qui tourne, encore moins de container qui tourne sur ma machine virtuelle. Mais je pourrais très bien faire un Docker run. Par exemple, l'image qu'on connaît, un Microsoft slash Azure CLI, qui contient le client Azure CLI, c'est-à-dire le client en ligne de commande pour gérer Azure depuis une machine Linux, eh bien, on l'a livré sous forme de container qu'on a déposé dans le dépôt le Docker Hub. Donc c'est plutôt pratique. Installer Node.js et toutes ces dépendances-là, pour moi, ce n'est pas trop facile sur une machine Linux. Donc voilà, une ligne de commande, Docker run Microsoft Azure CLI, et j'ai automatiquement l'image, le container qui tourne sur ma machine, et je peux utiliser Azure CLI.
Donc ça, c'est super intéressant, parce que là, effectivement, tu as une première ligne de commande qui est Docker run, ton container. Et ensuite, une fois que ce sera fait, tu vas te connecter au conteneur et tu vas nous montrer effectivement qu'on a la ligne de commande d'administration d'Azure pour les environnements non Windows, c'est-à-dire Mac OS X, ou Linux, rapidement en fait opérationnel, simplement par deux commandes en fait. Et tu n'as pas à installer toutes les fameuses dépendances dont tu as parlé, effectivement, il y a Node.js, mais il doit y en avoir d'autres, et qui peut être un petit peu pour des gens comme nous, plutôt habitués au monde Windows, plutôt assez compliqué à installer, en disant comment on fait pour installer tout ça, le paramétrer. Ben, l'avantage, c'est que effectivement, l'application vient, et elle vient avec ses dépendances. Donc effectivement, on voit les différents layers qui sont chargés, qui correspondent effectivement à l'image de base, plus après les différentes couches. Les différentes couches, les différentes layers dont on a parlé tout à l'heure.
Exactement, et ces couches en question sont en fait un Debian. Donc là, on remarque déjà qu'on est sur un Ubuntu, mais on exécute un container basé sur une image Debian. Sur ce Debian, on a installé les dépendances, donc les Node.js et compagnie, et la ligne de commande Azure CLI. Là, on est en train de meubler, Stanislas, en espérant
que
ça s'installe.
Tu as instancié, tu as instancié ton moteur Docker ou ta machine Docker sur une petite VM dans Azure, donc ça veut dire que tu n'as pas une énorme bande passante. Hein. La bande passante disponible par machine virtuelle dépend également de la taille que tu choisis. Donc là, tu as dû prendre une A1, je crois, ou une A2, donc tu n'es pas sur une machine qui est très... Une A2, donc ce n'est pas une machine qui est énormément passante. Mais ça y est, visiblement, ton container est déjà déployé. Il ne te reste plus qu'à te connecter dessus de manière interactive.
Alors, est-ce qu'elle tourne, est-ce que le container tourne? Ah oui, parce que j'ai oublié l'option moins IT.
Du coup, tu l'as démarré, mais tu ne t'es pas logué dessus.
Docker PS, pour voir si elle tourne. Donc, elle ne tourne pas, donc je vais la démarrer.
Voilà.
Et moins I pour être en interactif connecté dessus.
Moins T aussi ou quoi?
Le T, c'est pour créer le TTY, mais je crois qu'on n'en a pas besoin quand on fait un start. Et puis, donc, Microsoft slash start. Start.
Azure CLI.
Azure.
Docker PS-A.
PS-A. Je ne donne pas le bon nom, oui. Évidemment.
Et évidemment. En Docker, on fonctionne plus avec les ID qu'avec souvent les noms.
Ou le petit nom qui nous a créé par Docker, c'est assez amusant, là, qui s'appelle en l'occurrence Modeste Fermat.
C'est bizarre. Ce...
Hop.
Voilà.
Docker, start, moitié. Donc, est-ce que le conteneur tourne?
On relance un run avec le moins IT.
Effectivement.
Donc, nous aussi, on débute dans Docker, donc des fois, effectivement. Voilà. Donc là, tu es bien logué dans le conteneur. Et pour nous le prouver, tu vas nous lancer la commande Azure qui va déclencher le client Azure. Voilà.
Exactement.
Si tu remontes légèrement, on va voir qu'ils ont fait un petit logo, tout en ASCII. Et effectivement, du coup, là, tu peux te loguer à ton compte Azure et l'administrer entièrement en ligne de commande. Voilà.
Exactement.
On a presque galéré. Donc, merci Pascal pour cette petite démonstration. Donc là, on voit en quelques minutes, tu as démarré une machine virtuelle, tu as instancié une machine virtuelle Docker
dans Azure.
Avec donc Docker, moteur Docker client Docker dans Azure. Et puis après, tu as allé instancier en fait un container Azure CLI qui contient les outils d'administration d'Azure sous la forme d'un container Docker.
Donc là, c'est le scénario développeur un peu. Je me fais une petite machine et puis je vais dans mon petit container faire des petites choses comme ça dans mon coin, c'est ma machine. Maintenant,
ou le scénario d'administrateur qui a besoin d'une machine d'administration. Donc, juste pour remonter l'interface, si tu avais été dans le marketplace et que tu avais cliqué sur container app ici, tu aurais eu une autre vue en fait un peu plus graphique des différentes applications pré-packagées sous la forme de container qu'on peut avoir et démarrer en fait directement depuis le marketplace d'Azure. Mais c'est juste une vue qui est différente de ce que tu nous as montré tout à l'heure. Donc, depuis quelques mois, on est en train de pousser un nouveau modèle de gestion de la plateforme IaaS d'Azure qui s'appelle ARM, Azure Resource Manager. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir créer des modèles qui sont déclaratifs d'infrastructure. Donc là, on est réellement sur de l'infrastructure as code. On va avoir des modèles d'infrastructure et d'applicatifs déclarés sous la forme de code, de fichiers JSON, pour être tout à fait plus précis. Et donc, si on recherche ce qui existe aujourd'hui dans la galerie des modèles disponibles, vous faites une recherche sur Docker. Donc, concrètement, on vient ici sur ce qu'on appelle les Azure Quick Start. Donc, vous faites une recherche dans votre moteur de recherche préféré, qui est certainement Bing Azure Quick Start Template, et vous obtiendrez cette page-là. Et ici, vous pouvez rechercher dans l'ensemble des modèles disponibles ce qui concerne Docker. Donc là, par exemple, j'ai déjà tapé Docker, mais je peux le refaire. Enfin, voilà. Et Docker, on voit qu'il y a pas mal de petites choses qui existent déjà. Donc là, on en a 9 qui apparaissent. Donc ça, c'est une vue simplifiée en fait d'un GitHub qui existe ici, qui est public, donc que vous pouvez synchroniser, qui contient beaucoup plus de modèles, etc. Mais là, on a dit qu'on se concentrait aujourd'hui sur la partie Docker. Donc sur Docker, on voit qu'il y a ça comme modèle qui existe. Donc il y a deux modèles sur lesquels on va un petit peu parler, discuter dans les prochaines minutes. C'est celui-ci, et puis un autre ici où on va parler tout à l'heure de Marathon, de Chronos, etc. Donc le premier modèle, qui est le modèle Docker Swarm Cluster, donc on peut cliquer dessus et on va voir des informations, avec un bouton ici Deploy to Azure, ça c'est un peu important, on le fera tout à l'heure. Donc tous ces modèles-là, on peut soit les démarrer, les instancier avec une ligne de commande PowerShell, ici. Donc là, on a juste à faire un copier-coller et à donner les informations demandées par le modèle, les noms d'admin, les mots de passe, etc. On peut également le faire avec la ligne de commande, et ça, on retrouve le fameux Azure CLI que tu nous as montré tout à l'heure dans ta démonstration. Bah, si on a déjà, donc, on a fait l'étape que tu nous as montré tout à l'heure, on a un Azure CLI prêt à l'usage, on fait un copier-coller de cette ligne-là, on donne les informations, et automatiquement, on va pouvoir déployer de manière entièrement automatisée, super rapide, un cluster Docker Swarm. Alors, quelle tête il va avoir ce cluster Docker Swarm ?
On a trois méthodes quand même pour le déployer. On a le bouton sur lequel on clique pour le déployer directement dans Azure. On a le script PowerShell, enfin la ligne de commande PowerShell et la ligne de commande Linux, Azure CLI.
Exactement. Si on clique simplement sur le bouton, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ouvrir en fait le portail Azure et il va nous demander en gros des informations.
Oui, parce que dans le lien, en fait, il met comme paramètre l'URL du fichier JSON correspondant au template.
Exactement. Alors le modèle est assez complexe. Si on regarde un petit peu sa tête, là on va voir en fait qu'il y a quelques centaines de lignes. Donc c'est un gros fichier JSON, d'accord, qui va appeler derrière des scripts, etc. Mais à la limite, on peut en faire abstraction parce que l'idée c'est de savoir ce qu'on déploie derrière. Et donc en termes de paramètres, effectivement, on va choisir le nom d'administrateur. Là on va devoir fournir la clé SSH. On va devoir dire quel nom sera exposé publiquement pour aller se connecter en fait à ce cluster Swarm et combien va vouloir de nœuds dans ce cluster. Alors, tu vas me dire, oui, mais alors du Swarm, comment ça marche, etc. À quoi ça va ressembler derrière cette implémentation? Ça va ressembler en fait à ça. Oula. Quand on va déployer ce modèle, alors ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, c'est même plutôt clair. Un cluster Swarm en fait est géré par deux ensembles. Enfin, il y a deux ensembles dans un cluster Swarm. Il y a ce qu'on appelle les agents, donc ce sera cette deuxième partie. Donc ça, c'est là où vont tourner en fait les containers qu'on va déployer dans l'ensemble du cluster. D'accord ? Donc c'est là où on va dire on a la charge utile utilisée, les applicatifs. Donc là, on remarquera qu'ici, dans ce modèle-là, ce sont des instances de VM CoreOS avec l'extension Docker qui sera installée dessus. Et ce seront sur ces serveurs CoreOS en fait, que seront démarrés tous les containers applicatifs. Et pour y accéder depuis l'extérieur, eh bien, on va avoir ici un load balancer Azure qui va répartir en fait la charge sur ces différents nœuds Docker. Donc c'est par ici qu'arriveront en fait les utilisateurs sur l'application qui sera dans le conteneur. Et pour gérer ce cluster Swarm et donc la répartition, eh bien on va avoir un deuxième groupe qui sera les Swarm Managers. Ils sont au nombre de 3. de 3 en fait pour assurer simplement la redondance du service de management et de pilotage. Donc la redondance et ce mécanisme de clustering fonctionne sur la forme d'un système d'élection. Et dans une élection, tu le sais, il faut toujours qu'il y ait une majorité pour que l'élection soit remportée, de qui va être le nœud master. Et donc c'est pour ça qu'on a 3 machines. Enfin, quand on joue en nombre impair, on peut en avoir une. Une, ce serait pas, il n'y aurait pas de redondance, pas de sécurité. Donc 3, c'est le nombre minimum. Ça peut être 5 après, en fonction de la taille du cluster swarm derrière. Donc l'administrateur, en fait, va se connecter par un deuxième load balancer ici, qui, en fait, ira connecter le cluster de management ici, qui est le swarm manager. Et tu remarques ici qu'on parle d'availability set. Hein. Petit rappel sur ce que c'est qu'un availability set dans Azure. C'est dans un availability set, on met en fait des rôles qui, enfin plusieurs VM qui ont le même rôle. L'idée étant d'assurer une haute disponibilité de ces machines virtuelles. Quand elles sont dans un availability set, automatiquement les machines virtuelles dans le data center d'Azure seront réparties sur des domaines de panne différents. Un domaine de panne, c'est quoi? Basiquement, on va dire, c'est un rack qui contient du réseau, du stockage et des machines. Et s'il y a une opération de maintenance, il y a un problème sur le rack, le fait d'avoir associé ces 3 machines virtuelles ici à un availability set veut dire qu'elles seront automatiquement réparties sur 3 racks différents. Donc on est sûr qu'elles seront toujours disponibles parce que même en cas de panne, entre guillemets, dans le data center d'Azure. Ça va? Je suis clair?
Bonne utilisation donc des technologies Azure et Docker.
Exactement. Et donc en fait, le modèle va déployer tout ça. Donc le modèle va déployer un certain nombre de machines virtuelles, des managers et des nœuds esclaves ou agents qui seront les nœuds où il y aura réellement entre guillemets les conteneurs à destination de l'application pour la chose.
Et tout ceci en une opération, hein, on a vu.
Et tout ceci en une opération, exactement. Et qu'est-ce que ça va donner une fois qu'on l'aura? Donc alors juste pour résumer, hein, il y a du Docker sur le cluster d'administration. On va avoir en fait un moteur Docker sur chacun des machines virtuelles d'administration. Et ce moteur Docker implémentera en fait des containers, un pour le Swarm et un pour Consul. Le Consul, c'est le système qui va permettre de faire le fameux vote. Ouais, Consul vote. Ah. Voilà. Donc, en résumé, l'utilisateur arrivera par du SSH via le load balancer sur un des serveurs de management. Et l'utilisateur, en fait, pousse ses commandes Docker à un serveur de management qui, lui, après, les reventile sur les nœuds, en fait, qui, eux, vont exécuter les conteneurs applicatifs derrière. Voilà. Donc, tout à l'heure, tu me disais, on a un client Docker qui parle à un moteur Docker. Quand on commence à avoir des gros clusters, on a plutôt un client Docker qui parle à un Swarm Manager qui, lui, parle après au serveur Docker. Voilà, c'est à ça que ça sert.
C'est le Swarm Manager qui va décider de sur quel nœud final on va déposer les conteneurs, en fait.
Exactement. Et on peut donner des conditions, dire par exemple, je vais déployer un conteneur MySQL, mais je ne veux pas déployer de conteneur MySQL sur les Docker hosts qui en ont déjà un, ou alors je veux déployer les conteneurs MySQL à côté des conteneurs web, par exemple. D'accord. Donc c'est assez fin comme système. Et donc pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que ça a été lancé, qu'on a lancé l'opération, hop, on va revenir ici. Donc une fois qu'on a rempli ces 3 paramètres et qu'on a cliqué sur OK, ça, l'opération prend quelques minutes, mais pour gagner du temps, là encore, je l'ai déjà fait. Et j'ai déjà ici un groupe de ressources qui contient l'ensemble de mes ressources liées à ce déploiement Docker Swarm. Donc on va voir ce que ça contient au final. Alors je vais cliquer ici sur le petit bouton, 3 petits points, qui est un peu caché, hein, qui ressemble à un mini menu burger pour les développeurs. Quand on clique dessus, en fait, on va voir l'ensemble des ressources qui composent en fait ce déploiement Docker Swarm. Donc on va retrouver quoi? Eh bien, on va retrouver ici. Alors, j'ai cliqué un peu vite, excusez-moi. On va retrouver ici les 3 serveurs de management, qui sont les Swarm Masters. Et en dessous, ici, on va avoir les nœuds Swarm, donc ceux qui vont exécuter, entre guillemets, l'application qu'on va vouloir ventiler et manager au travers du manager.
Au début, ce sont les 2 availability sets, je suppose.
Exactement. Ici, ce sont les 2 availability sets, donc un pour les managers, un pour les nœuds. Donc, on voit ici la notion de fault domain. Et on a également les update domains, c'est-à-dire quels sont les ensembles qui vont être mis à jour. Et l'idée, encore, c'est pas que toutes les VM tournent sur le même domaine de mise à jour, sinon ce serait ridicule. Donc là, on a le détail ici. Donc c'est effectivement l'availability set. Si on descend un petit peu plus bas, on va trouver quoi? Et ça correspond tout à fait au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. On va retrouver 2 load balancers. Un load balancer externe pour accéder en fait au node management. Un load balancer externe pour accéder réellement aux applicatifs qui seront derrière dans des containers. On trouve ensuite toutes les cartes réseau parce que dans le nouveau modèle d'Azure, Les cartes réseau sont des objets, sont des ressources à part de l'objet machine virtuelle. Et si on descend encore un petit peu, on va trouver quoi? On va trouver ici le load balancer, l'adresse IP pardon, externe pour le load balancer d'administration, l'adresse IP externe pour les nœuds, un seul VNet qui est le VNet Swarm où en fait on a l'ensemble des serveurs qui ont été mis dedans, c'est-à-dire qu'on a les serveurs de management et les serveurs qui vont servir le moteur Docker et les applicatifs sur un même réseau à plat. Et puis tout est dans un seul compte de stockage dans cet exemple. Donc toutes les VM, tous les VHD sont stockés dans un même ensemble ici. Et il ne nous reste plus qu'ici que les NSG qui sont les règles de sécurité d'accès au réseau en fait, qui vont dire bah voilà, j'autorise depuis l'extérieur à aller en SSH sur mes Swarm Manager, j'autorise d'accéder à tel applicatif sur tel port sur l'ensemble de mes containers. Voilà. Et tout ça est fait pour vous, est packagé pour vous, est prêt à l'emploi. C'est-à-dire qu'une fois que, une fois qu'on a démarré tout ça, eh bien on peut se connecter en fait à son cluster Swarm, si ça veut bien se lancer. Voilà. Et là, en fait, je mets ma passe-phrase.
C'est pré-packagé et c'est modifiable également. Si le fichier JSON est tout à fait accessible.
Exactement. Et là, en fait, je suis sur mon Swarm Master. Hein, je préfère un Docker Info. Donc, j'ai toutes les commandes derrière. Je vois que j'ai deux containers ici sur ce manager. Effectivement, je t'ai dit qu'il y avait deux choses. Il y a un container Swarm et un container Consul qui sert à l'élection. Ouais. Et on voit que je suis sur le premier Swarm Master. Bon, après, c'est simplement de la commande Swarm qu'on va exécuter ici. Là, je fais localement. En général, on pourrait déporter ça également.
Tout à fait.
Voilà, donc ça c'est la première chose qu'on a fait, qui est un super modèle pour déployer très rapidement un Docker Swarm et ne pas avoir à passer du temps à configurer ça.
Donc là on a parlé beaucoup de Docker. Mm-hmm. Il y a un autre grand acteur du monde de Docker et des containers, c'est Mesosphere.
Exactement. Alors, Mesosphere, on va switcher juste sur ton poste que je vais préparer ma démo d'après.
Ok.
Donc Mesosphere en fait c'est une société. Donc c'est une société qui vend une solution qui s'appelle DCOS. Donc DCOS en fait c'est l'acronyme de Data Center Operating System.
Mm-hmm. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est du cluster de containers ou d'autres ressources Linux d'ailleurs, mais à l'échelle du Data Center, en tout cas à très large échelle.
Exactement. Et en fait l'idée de cette société de Mesosphere, c'est d'utiliser un ensemble d'outils pour packager cette solution DCOS. Et en gros, fournir entre guillemets, un nouveau moyen, mais adapté entre guillemets, à des choses comme les containers ou des clusters Hadoop, etc. Et de gérer ces grosses infrastructures. Donc ça combine en gros pas mal de composants. Et derrière, ça va assurer donc effectivement ben, le scheduling d'application, la montée en charge et l'inverse. Donc rajouter de la ressource ou en diminuer. Ça va faire de la tolérance de panne et également du self-healing, c'est-à-dire de l'autocorrection, c'est-à-dire si un applicatif ou un container tombe, et d'être capable de le réinstancier de manière automatisée. Voilà. Donc, en gros, il y a deux éditions de Mesosphere qui existent. L'édition communautaire qui est gratuite, mais assez limitée aujourd'hui, et puis une édition payante. Donc, c'est une entreprise qui vend une solution, hein, clairement. Donc, pour assurer en gros la création facilitée et l'industrialisation de clusters dans Azure, du coup, Microsoft, on s'est associé avec Mesosphere. Parce que Mesosphere, aujourd'hui, finalement, si on regarde les composants qui sont à l'intérieur, c'est des composants qui sont certains pas mal utilisés. En fait, il y a trois gros composants dans DCOS de la société Mesosphere. On a toujours tendance à confondre.
Oui. On va donc, y arriver.
Il y a un composant qui s'appelle, qui est très connu, qui s'appelle Mesos. Donc en fait, Mesos, en gros, c'est un composant qui va gérer un cluster. Donc un petit peu comme Swarm d'ailleurs. Voilà, c'est très 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 proche. Donc on va dire que Mesos, c'est un petit peu le kernel de DCOS, si je peux me permettre. Et c'est lui qui va s'arranger pour bien ventiler les applications sur les différents nœuds et bien faire monter en charge. Et donc, pour orchestrer le déploiement des objets, des tâches sur les différents nœuds, eh bien, il va être capable, en fait, ce Mesos, de savoir combien il y a de RAM, combien il y a de CPU, et d'avoir une vue globale. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est souvent qu'on dit, quand on parle des caractéristiques du cloud computing, que dans le cloud computing, on met en commun les ressources et qu'on voit à l'échelle globale et non pas à l'échelle unitaire du serveur. On dit, voilà, j'ai tant de CPU, tant de puissance de calcul, j'ai tant de mémoire, etc. C'est exactement ce que fait Mesos. Et pour dire, Mesos, en fait, il est capable de gérer en tant que cluster manager des ensembles pouvant aller jusqu'à 10 000 nœuds. 10 000 machines aujourd'hui Linux, 10 000 hôtes Linux.
Hôtes Docker.
Donc potentiellement 10 000 hôtes Docker, effectivement. C'est lui qui va faire tout ce qui est isolation de ressources au travers des containers Windows, justement. Donc c'est lui qui va gérer l'organisation et l'utilisation la plus efficace possible du CPU, des différents hôtes et de la mémoire. Et donc il dispose également d'une interface web pour monitorer un petit peu, voir l'état de tout ça. Alors Mesos, ce n'est pas un truc qui vient de débarquer comme ça, ce n'est pas un composant tout nouveau qui a été créé par cette société qui s'appelle Mesosphere. Non, c'est une chose qui est déjà pas mal utilisée, et utilisée notamment par Twitter. Il est également utilisé par Apple dans un cadre particulier qui est Siri. Donc c'est assez intéressant en fait de voir que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Et en fait, Mesos, donc cet applicatif, il a été créé par Benjamin Hindman. Et tu me le mettras dans le mille, mais Benjamin Hindman, en fait, c'est un des cofondateurs de la société Mesosphere. D'accord ? Donc première personne. Logique. Donc un des premiers composants, Mesos, qui est dans cette solution, ben, le cofondateur de la société, c'est le gars qui a fait Mesos.
D'accord. Donc on voit, Mesos gère un peu les ressources.
Exactement.
Et le volume.
Et leur ventilation. Et leur ventilation, voilà.
Maintenant, sur des clusters, sur ce genre de cluster-là très volumineux, il faut exécuter des choses.
Voilà.
Donc comment c'est géré, ça ?
Alors, il y a deux façons d'exécuter les choses. Soit tu as des tâches long terme, on va dire. Donc si je fais un pendant mon Windows, on va dire c'est un service, c'est-à-dire que... On démarre un container ou on démarre un cluster, et puis on va démarrer des services derrière, et puis en gros, c'est l'équivalent sous Linux, on va dire, du init. Sous Linux,
on démarre,
surveiller 10 000 init, c'est pas super, super bien. Donc en fait, pour faire ça, on a dans Mesosphere un autre composant qui s'appelle Marathon. Marathon. Ça permet effectivement de faire ce genre de choses. Donc c'est un init, mais qui est à l'échelle d'un cluster Mesos, et qui va pouvoir du coup comme ça instancier, démarrer des services, les arrêter, faire en sorte que si un des services ou si un démon s'arrête ou un conteneur tombe, hop, il soit redémarré de manière automatique. Donc c'est là on a la notion de self-healing. Et l'idée, effectivement, c'est bon, alors soit de base, quand on a un petit cluster, on peut faire ça par une interface graphique, je vous montrerai tout à l'heure. Quand on va industrialiser sur 10 000, tu te doutes bien qu'on ne va pas faire ça à la mémine. Donc là, on utilisera des API directement, où on pourra injecter, en fait, fournir des jobs en fait, à Marathon, parce que c'est des jobs derrière qu'on va avoir, qui vont être déclenchés, sous la forme de fichiers JSON.
D'accord, encore JSON.
Voilà, encore ce fameux JSON. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Marathon est quelque chose qui est déjà pas mal utilisé dans les gros acteurs du web. Alors on reste toujours effectivement dans des solutions pour les acteurs du web. Donc typiquement, c'est utilisé par Airbnb, c'est utilisé par eBay, par PayPal. On se doute un petit peu, eBay, PayPal à l'origine, c'était la même société. Par Groupon, par exemple, c'est utilisé par Yelp, ceux qui font les clients du TripAdvisor, mais pour les restaurants, les bars, etc. Par Viadeo également, c'est utilisé. Et là encore, tu vas me dire, mais c'est fait par qui Marathon ? Parce que c'est une solution open source. Eh bien, c'était créé en fait par Tobias Knop, qui travaille aujourd'hui chez Mesosphere.
Chez Mesosphere.
Et ça a été également développé par Florian Leiber, qui est un des cofondateurs, un autre cofondateur de Mesosphere. Donc là, on a vu la partie gestion de management du cluster, on a vu le lancement de tâches ou le maintien de services. Ben, il nous reste également une troisième fonction qui est vraiment un des piliers de DCOS. C'est la capacité en fait de démarrer des tâches planifiées avec une récurrence ou pas derrière. Donc on connaît plein de tâches planifiées. Là, l'idée, c'est d'avoir en fait un outil adapté à ces gros clusters. Et cet outil s'appelle Chronos. Et Chronos, en fait, il est vu comme un framework de Mesos, donc une extension de Mesos. Et en fait, à l'origine, ce truc-là a été développé en fait chez Airbnb. Airbnb, tu m'as dit tout à l'heure qu'il utilisait Marathon déjà. Tu vois, oui. Donc ça vient vraiment complémenter Marathon. Marathon, c'est je démarre une tâche, je fais en sorte qu'elle reste toujours. L'autre, c'est j'ordonnance et je planifie des tâches. Et en fait, ça a été développé pour remplacer Cron sous Linux.
Oui, Cron ou Cron, oui.
Game of Cron, hein, tout ça quoi. Donc, et c'était développé par qui en fait Chronos, par le même Florian Leiber, qui est également des créateurs de Marathon. Et qui est également un cofondateur de Mesosphere. Donc, on va dire que dans Mesosphere, on a un ensemble de solutions qui sont et dont les créateurs en fait sont les fondateurs de la boîte.
Voilà, donc Mesos, Marathon pour l'endurance, et Chronos pour la planification.
Exactement. Donc, scripting, donc on peut bien entendu des API pour scripter tout ça. Tu as une interface web pour voir la chose. Et clairement, dans des COS de Mésosphère, Chronos vient compléter Marathon. Et c'est simplement une autre façon en fait, d'exécuter des applications selon des conditions, selon un agenda particulier, jusqu'à terminaison de la tâche. Voilà. Donc, globalement, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on avait dans des COS. Et pourquoi finalement on parle de tout ça?
Et donc, le partenariat entre Microsoft et Mésosphère, donc, qui a été conclu en août 2015.
Fin août même d'ailleurs, là on est, ça fait un peu plus d'un mois quasiment.
Consiste à préparer la possibilité d'utiliser des composants de DCOS dans Azure pour l'orchestration et l'exécution de containers directement dans Azure.
Exactement, et ça va même plus loin parce qu'aujourd'hui, DCOS permet en fait de piloter des clusters avec derrière en gros des environnements Linux. Dans le futur, et ça c'est lié justement à ces fameux accords entre Microsoft et la société Mésosphère, c'est qu'en fait DCOS, donc cette gestion de clusters applicatifs, va également permettre de gérer des clusters applicatifs sur base Windows derrière. Donc on imagine très facilement effectivement sur base Windows Server 2016 et container Windows Server 2016. Voilà. Donc ça viendra compléter entre guillemets l'offre. Donc l'offre de Mésosphère va s'agrandir derrière. Ça va Pascal? Alors, dernière annonce qui est importante sur les containers, finalement l'orchestration et tout ça, c'est ce qui a été fait à l'AzureCon fin septembre 2015, avec un service qui s'appelle Azure Container Service, dont l'objectif principal pour Microsoft est de vous simplifier la création et la configuration de clusters et de containers. Voilà, tu vas me dire, mais dis donc, déjà avec le modèle ARM Swarm, c'était déjà, on simplifie bien la création et la configuration. Je réponds oui.
Exactement.
Mais en fait, Swarm a ses limitations. Déjà, aujourd'hui, il n'est pas normalement prévu pour être utilisé en production. Dixit, le site de Docker. Et puis, il n'a pas encore cette maturité, cette historique permettant de monter jusqu'à 10 000 nœuds, par exemple, comme c'est le faire des COS. Parce que finalement, Swarm et des COS, Swarm et Mesos, c'est des choses qui sont assez similaires. On orchestre des tâches, on les envoie sur des grands nœuds.
Mais cet aspect passage à l'échelle est vraiment apporté par la solution DCOS de Mésosphère.
Exactement.
D'où cet accord avec Mésosphère et cette annonce de Azure Container Service.
Exactement. Aujourd'hui, DCOS, en fait, fonctionne avec AWS et va prochainement, d'où l'accord, prochainement fonctionner, effectivement, avec Azure et avec le moteur cloud également de Google. Donc, en gros, Microsoft et Mésosphère ont travaillé ensemble pour que ça marche bien sur Azure. Et donc, on a sélectionné quand même certains composants. On n'a pas pris, je pense, tous les composants de DCOS.
Mais les principaux, hein, donc Mésos,
on trouve Mésos.
Apache Mésos, hein, ouais. Ça voulait être...
Alors, petit point, c'est qu'à l'origine, dans DCOS, il y avait Mésos et puis il y avait un bloc qui s'appelait le Docker Containerizer qui permettait de gérer des containers. Parce que Mésos, au départ, ça instanciait des tâches Linux, mais pas forcément des containers sur les machines du cluster. Par la suite, en fait, ils ont pris ce module qui s'appelle Docker Containerizer et ils l'ont injecté au sein de Mésos. Donc, dans les dernières versions de Mésos, le support de Docker en fait est natif à Mésos. Voilà. Donc, on a gardé Mésos, on a gardé Marathon, on a gardé Chronos et on a rajouté également, il y a également Mésos DNS, qui est un service de discovery. Quand on va parler d'architecture microservice, chaque fois qu'un microservice démarre, est instancié. Eh bien, en fait, il doit découvrir un petit peu l'environnement où il est, parce qu'il va peut-être avoir des dépendances avec d'autres containers à côté, vers des relations de réseau, etc. Et c'est à ça que servent en fait les services de discovery. Donc, Mésos DNS, c'est un service de discovery.
On a également développé des outils pour intégrer Docker Swarm et Docker Compose, au cas où on en ait besoin, sur les architectures qu'on déploiera avec DCOS.
Exactement. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, DCOS pour Azure est en version préliminaire, parce que là, on est sur une annonce sur l'Azure Container Service. Donc, à terme, effectivement, ce sera Azure Container Service sera une interface qui permettra d'utiliser tous ces trucs-là, sauf que ce sera encore plus automatisé pour vous. On l'a dit, le but, c'est de simplifier la création et la gestion de clusters. Donc, aujourd'hui, on peut déjà tester DCOS sur Azure. Il suffit simplement d'en faire une demande sur le site officiel de Mésosphère, donc mesosphere.com/downloads. Et donc, on embarquera dans des COS, effectivement, Apache, Mesos, Marathon, Chronos, etc. Ce qui est plutôt bien, et c'est pour ça que leur solution, elle est vraiment appréciée, qu'elle est bien packagée, c'est qu'au-delà des outils qui fournissent et qui sont complètement pilotables par API, etc., c'est qu'ils ont fait également des bons systèmes de pilotage, des bons dashboards. Et ça, je pense que quand on commence à avoir comme ça des gros environnements, c'est aussi important d'être capable de prendre du recul et d'avoir une vision globalement du fonctionnement de l'environnement et de son usage avec justement des choses plutôt assez visuelles.
Donc concrètement.
Alors concrètement, Azure Container Service, il y a quoi aujourd'hui ? Il y a une seule chose, parce qu'on est vraiment dans l'annonce, on est à moins d'un mois de post-annonce, entre guillemets. Aujourd'hui, on a un prototype d'implémentation de ces technos sous la forme d'un modèle ARM, donc d'un Quick Start Template d'Azure, que je vais vous montrer juste après. Et prochainement, en fait, actuellement, donc on a un modèle ARM qui est assez complexe, en fait, hein, qui a été travaillé avec Microsoft et Mesosphere, qui contient des centaines de lignes de code JSON, plus des scripts Unix pour faire tout le paramétrage pour vous. Au final, quand tout sera bien packagé, bien intégré, sous la forme de ce qu'on appelle Azure Container Service, on aura un provider. Alors un provider dans l'imagerie Azure, ISV2, ça permet de générer et de créer des objets, en gros. Donc, par exemple, on a des providers computers qui permettent de créer rapidement, en API ou en ligne de compte PowerShell, un objet lié au provider, donc un objet machine virtuelle, un objet, etc. Et donc là, on aura un objet qui s'appellera un Azure Container Service, qui permettra en fait de déployer très rapidement un cluster avec une appel à un API ou une ligne de commande PowerShell. Et du coup, on verra un objet dans Azure qui correspondra en fait à ce cluster. Et pour la partie scalabilité, c'est-à-dire ajout de nœuds ou pas, on s'appuiera sur un deuxième service d'Azure qui va arriver, qui s'appelle Virtual Machine Scale Set, dont l'objectif en fait est de pouvoir faire du scale-out ou du scale-down. Scale-out dans un sens et dans l'autre, donc augmentation ou réduction du nombre de nœuds, d'instances de machines virtuelles. Alors c'est une chose, tu vas me dire, c'est pas nouveau. Alors ça existe déjà aujourd'hui au niveau des web services sur la partie PaaS d'Azure, c'est-à-dire qu'on sait rajouter un nombre d'instances pour un web service, par exemple. Dire voilà, on va aller de un frontal web à 10 frontal web, 10 frontal web, pardon. Et bien là, on va pouvoir le faire à l'échelle d'une machine virtuelle qui aura un rôle donné, par exemple, du Docker dedans avec telle chose, et on sera capable d'augmenter ou pas par duplication en fait d'une image, et on donnera le nombre, voilà, ce sera un service qui s'appellera Virtual Machine Scale Set, donc VMSS plus le Resource Manager de Container Service permettra vraiment de faire l'abstraction quelque part de la complexité d'un cluster des COS et de toute la gestion du paramétrage de cette infrastructure. Ce sera déjà directement packagé, et vraiment en termes de consommation de cloud, on viendra principalement avec son application sur la forme d'un container, et après la mécanique de sous, on s'en moquera un petit peu, entre guillemets.
Donc pour nos amis DevOps, donc développeurs ou Ops, le fait d'avoir un service provider pour ARM simplifiera beaucoup les déploiements. Quoi. Les déploiements, quel que soit l'environnement, que ce soit un environnement de staging ou un environnement de prod, puisque là on parle de prod, hein, avec ces volumétries-là dont on parle avec des COS, on parle de prod assez lourde.
Exactement. Alors tiens, si on regardait un petit peu à quoi ressemble ce modèle, qu'est-ce qui va produire. Donc ce modèle, en fait...
C'est pas sans rappeler le modèle Swarm qu'on a vu précédemment.
C'est pas très très différent, c'est juste un petit peu plus élaboré. Donc le modèle s'appelle le cluster Mesos avec donc Marathon, Chronos, et il y a optionnellement du Swarm, on n'est pas obligé. Donc là encore, on va passer par... Donc on va avoir trois grosses briques. Je vais le switcher sur mon poste, comme ça je ferai du zoom directement depuis ici. Voilà. Donc, on va avoir un premier ensemble de machines qu'on appelle les agents ou les nœuds. Donc ça, c'est vraiment les nœuds, c'est là où il y aura c'est là qu'on exécutera les applicatifs pour l'utilisateur final, entre guillemets. Donc ce seront les différents nœuds Docker qui seront pilotés. D'accord ? Donc ils sont mis dans un availability set, exactement comme le cluster form tout à l'heure.
Comme tout à l'heure.
On va avoir au milieu, ici, un autre availability set qui va contenir en fait les nœuds de management. Même contrainte que dans Swarm pour la partie élection, etc. Donc on aura dans ce modèle-là entre un master, 3 ou 5, toujours avoir un nombre impair pour pouvoir faire une élection et dire qui est le maître dans ce cluster. Et on voit en fait qu'on va pouvoir accéder à ce cluster au travers d'un load balancer Azure, tout à fait classique, donc une IP publique. Et derrière, on va pouvoir se connecter à différents services qui sont déjà instanciés par le modèle. Donc on va avoir sur les masters donc, Docker, on aura Swarm de manière optionnelle, et là on a également les services Chronos, Mesos et Marathon. Donc tous les services en fait présents dans le pack des COS de Mesosphère. Donc Mesos pour gérer le cluster, Marathon pour lancer des tâches à long terme, enfin des tâches longues, et Chronos pour faire du planifié ou du conditionnel.
Si l'on considère par exemple le port 50-50 qui est indiqué ici, ça va être l'interface web de Mesos.
Exactement.
Maintenant, depuis quel poste on va se connecter à cette interface web de Mesos sur ce cluster de management?
Alors, on va le faire par ce qu'on appelle une jump box. Donc une jump box, en fait, ce sera la machine d'administration qui est dans le même réseau à plat. On est sur un même subnet ici. Et cette jump box, on a le choix lorsqu'on démarre le modèle, on implémente le modèle, soit de faire une jump box Linux, soit de faire une jump box Windows. Là encore, ça dépend du type d'administration. Et donc, si on est sur, donc on va accéder à cette jump box là encore par une autre adresse IP publique qui est dédiée. Et donc, soit on y accédera en SSH sur le port 22 si on a instancié une jump box Linux, soit en 3389, donc en terminal serveur, si on est sur une jump box Windows.
Jump box ou système de rebond pour rebondir.
Exactement.
Vers,
Appelons ça la machine d'administration parce que c'est une machine d'administration. Donc, voyons ça en démonstration. Donc, on a ici, là encore, quand on fait une recherche ici sur.
Dans le marketplace,
dans le marketplace,
Quick Start Templates.
Voilà.
D'Azure.
Donc, si je fais un back, on va revenir dessus. Je pense que c'était ici, si je ne dis pas de bêtises.
Je pense, oui.
Voilà. Donc, on va taper ici Docker. Voilà. Et on voit ici le Create Marathon Chronos Warm Enable Cluster. Donc, là encore, toujours ce fameux bouton Deploy to Azure.
Et les ici, paramètres.
Les paramètres qu'il va falloir donner.
Il y en a un petit peu plus que tout à l'heure.
Et comment utiliser le template.
Voilà.
D'accord. Je vais t'en lancer un, mais je ferai comme tout à l'heure, j'ai également une Maïté qui est prêt. Donc Pascal, quand on déploie ce modèle, en fait, ben, je vais remplir quelques informations. Je ne suis pas spécialiste d'installation de toutes ces choses-là. C'est packagé pour moi. C'est ça l'intérêt de la chose. C'est, on fait une abstraction de la complexité de l'infrastructure et on fournit un service clé en main quasiment. Donc on va me demander ici un nom de compte de stockage préfixe. Donc il y aura plusieurs comptes de stockage, donc il en faut un préfixe. Donc on va l'appeler démo Mesos MVA. Stan, non, c'est sûr que ce sera unique comme nom.
Unique, oui.
Voilà. Donc là, c'est mon nom de compte d'administration, Stan, le mot de passe complexe, qui sera le même sur l'ensemble des machines Windows ou Linux de la plateforme. Ici, un nom pour accéder à ma jumpbox, donc ce sera le nom public pour accéder à ma jumpbox. Donc,
du load balancer.
Exactement, donc on va l'appeler jumpbox démo MVA Stan. Là encore, nom unique. Ici, on demande le nom public pour accéder en fait, aux applicatifs qui tourneront dans le cluster Mesos. Mmh. Donc on va l'appeler démo MVA Stan. Ensuite, je choisis le nombre d'agents, donc ça veut dire le nombre de nœuds sur lequel va tourner le moteur Docker et sur lequel on mettra et on déploiera des containers. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les esclaves hein, dans le jargon. Donc là, je vais dire par exemple 5. Les masters, c'est combien je vais mettre de machines d'administration.
Voilà, donc le cluster d'administration, donc c'est là que l'on trouve le nombre impair, c'est
voilà, 1, 3 ou 5. Mm-hmm. Donc là, 1, je peux le faire pour la démonstration, mais voilà, on va dire 3, c'est le minimum.
Oui, parce que tu as beaucoup de...
J'ai beaucoup d'agents à gérer derrière, 5. Ensuite, on va choisir la jumpbox si elle est en Windows ou en Linux, ou si j'en veux pas, parce que je veux y accéder en direct, ou je veux l'installer moi-même par la suite. Ensuite, est-ce que mes masters sont également des agents? Donc, je pourrais mettre les nœuds esclaves sur les nœuds maîtres en même temps, enfin, fusionner toutes les fonctionnalités, ce qui est assez ridicule, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, on va le garder comme ça, master not agent. Non, je vais mettre Windows. Et ensuite, on choisit la taille des VM agents, donc des esclaves, la taille des masters, la taille de la jumpbox. Donc là, c'est les modèles de VM Azure. Et ici, on donne un nom de préfixe au cluster. Donc, le cluster, c'est-à-dire que chaque machine qui tourne dans le cluster s'appellera C1 agent avec un numéro derrière. On choisit si on va demander d'activer Swarm ou pas sur la chose. Je ne suis pas obligé de le faire, parce que si j'ai Mesos, à la limite, je n'en ai pas besoin de Swarm. J'active Mesos, j'active Chronos et j'active Marathon. Là, je peux choisir d'utiliser une clé SSH publique à la place, enfin une clé SSH à la place d'un mot de passe. Pour ma démo, je m'en moque, de toute façon, je vais supprimer. Je clique sur OK. Ensuite, il va me dire, ben, mets-moi ça dans un. On est dans Azure, dans du ISV2, mets-moi ça dans un groupe de ressources. Donc, je vais en créer un nouveau. On va l'appeler RG. J'aime bien appeler toujours RG mes groupes de ressources. Et puis on va l'appeler démo Mesos MVA Stan. Un petit peu long, mais c'est pas grave. Comme c'est un modèle, je dois obligatoirement venir ici sur dire j'ai lu que effectivement c'est un modèle, que ça allait coûter de l'argent, etc. Donc, comme d'habitude, hein, on ne lit pas ce genre de choses et puis on dit purchase. Et je vais instancier des choses qui vont coûter de l'argent derrière, hein, c'est-à-dire des machines virtuelles. Je clique sur create. Et là, je n'ai strictement rien à faire. Et dans les prochaines minutes, mon cluster sera déployé.
Oui, c'est très rapide, hein, c'est quelques minutes.
Hein, oui, oui. Bah, alors, ensemble. Le temps que ça se déploie, on va déjà aller voir un cluster que j'ai déployé. Voilà. Donc, je vais cliquer sur le petit point pour te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On retrouve quoi? Des choses très connues. Deux groupes de disponibilité. Donc, un pour les agents, les esclaves. Un pour les machines d'administration, les masters.
Je crois qu'il y a un autre terme pour les esclaves. On parle aussi de bétail.
Ah.
De cattle.
Oui, alors je ne vais pas rentrer dans cette chose-là. Mais effectivement, dans le terme anglais, vous pourrez trouver les pets and cattle. Donc, les pets, c'est les animaux de compagnie. On y fait attention, on les aime bien. Et puis, il y a le bétail, cattle. Et généralement, on considère que les nœuds d'un cluster où il y a en gros des serveurs Docker, ça c'est du bétail parce que le cluster va faire que si ça tombe, on peut en réinstancier de manière automatique, etc. Donc ce sera plutôt le cattle pour ces machines-là. Et puis les agents d'administration, ce sera plutôt des pets parce qu'on y fait un peu attention, c'est les agents d'administration, c'est les serveurs d'administration. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc tous mes nœuds, tout mon bétail est ici. Ce sont donc mes différentes machines agents ici. Donc là, j'en ai instancié 10 dans cette plateforme-là. Donc ça, c'est 10 serveurs qui sont du Linux avec du Docker dessus. Et après, ils sont managés par mon cluster de management. J'ai ici mon load balancer pour accéder en fait à mes fameux nœuds. Donc je n'accède pas en direct machine d'administration, enfin je ne fais pas l'admin directement depuis internet, je passe par ma jumpbox, je rebondis. Donc là c'est pour accéder en fait à ce qui tourne sur les cattle, sur le bétail, sur les agents.
Ensuite il y a les cartes réseau.
Ensuite les cartes réseau parce que c'est des objets. Et là on va retrouver ici les NSG, donc les groupes de les règles de firewall qui permettent d'accéder à toute la plateforme. Et ici on retrouve les deux adresses IP publiques. Donc d'un côté, on va avoir l'adresse IP publique de ma jumpbox, de ma machine d'administration, et puis l'adresse IP de l'ensemble des services exposés par le cluster. Voilà. Tout ça est paramétré pour moi de manière automatique. Si je vais maintenant je me connecte sur ma machine d'administration, donc ma jumpbox, donc moi j'ai sélectionné une jumpbox Windows, j'ai installé 2-3 trucs en plus. Alors de base, dans la jumpbox, dans ce modèle-là, Visual Studio 2015 est déjà installé, j'ai rajouté Firefox et Putty. Pourquoi j'ai mis Firefox? Parce qu'en fait, l'interface était de Marathon, marchait pas super super bien avec IE, un petit peu moins bien en tout cas qu'avec Firefox, dont j'ai rajouté un navigateur pour la petite histoire. Donc là, je suis ici connecté au port 5550 en HTTP sur mon cluster, depuis ma machine d'administration, et je vois ici l'interface de mes os. Donc on voit quoi ici? Alors je vais faire juste ça pour qu'on puisse avoir le zoom. Voilà. Si on se déplace légèrement, voilà. On voit que dans l'interface de mes os, on a cette fameuse vue agrégée de l'ensemble des ressources disponibles dans mon cluster. Donc on voit ici que j'ai 10 CPU, donc j'ai fait des machines à mono CPU et j'ai 10 agents. Donc ça me fait 10 CPU et j'ai à peu près 2,5 GB de mémoire à peu près par machine. Et donc on voit la mémoire globale que j'ai pour mon cluster. Là, tu vois, on est vraiment dans cette optique de dire j'agrège mes ressources et je les vois comme une seule. Et c'est vraiment exactement. En fait mes os qui va après faire le bon ordonnancement de tout ça. Donc, si on regarde les frameworks disponibles également avec mes os, on va trouver deux choses dont on a parlé tout à l'heure. On va retrouver deux frameworks qui sont associés, Marathon et Chronos. Marathon pour les tâches longues et redémarrables, etc. Et Chronos pour la partie planification. Les slaves, donc ce sont mes différents agents, mon bétail, si on peut appeler ça. Donc là, on voit que j'en ai 10 dans ce host-là, et on voit effectivement un CPU et 2,4 gigas par machine. Donc effectivement, tout à l'heure, tu as vu la version agrégée, 10 CPU, 24 gigas. On voit également le disque ici qui peut être agrégé. Et ensuite, offert, pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas démarré de choses sur ces machines. Donc, on va aller ici dans Marathon. Et dans Marathon, donc de base ici, je vois mon interface. Je n'ai pas d'applications pour l'instant qui sont en cours. Donc ce que je peux faire, c'est créer une nouvelle application. Là, je vais faire quelque chose de vraiment pas super beau. Hein. On appelle ça Echo MVA. On va faire une commande toute bête. Hein. Bon, là, c'est une tâche. Il faut imaginer que ce serait plutôt un container, un Docker run qu'on ferait à l'intérieur. Mais bon. Donc ici, je vais faire un écho. Matage va faire afficher le mot hello. Elle va attendre 10 secondes et puis après la tâche va s'arrêter. D'accord ? Je vais en faire plusieurs instances. Je vais en faire ça sur les 5 instances. Et puis je vais donner un CPU. Je vais donner un CPU pour faire l'ensemble. Soyons généreux. Alors, ce qui est bien, c'est que les Marathon, ils ont bien intégré Docker. C'est-à-dire que là, je te dis, on aurait pu faire une commande Docker run, etc. ou Docker start. Mais en fait, ils ont même fait mieux ici. On peut directement en fait donner le nom d'une image Docker, sélectionner sur quel réseau on va être, sur le réseau host ou le réseau privilégié de Docker, et automatiquement en fait il va pouvoir démarrer tout ça. Et après tu vois sur le container, je peux associer ici le mapping du container et faire passer d'autres paramètres, voire attacher des volumes en fait au container.
Ouais, il y a les connexions réseau, les ports, oui, le.
Donc il y a pas mal de choses.
Comme si on faisait le moins P directement.
Exactement. Donc on voit qu'ils ont bien packagé la chose pour fonctionner du Docker, sachant qu'effectivement, comme je dis, là je fais un exemple très simple, on va faire create. Donc là, il est en train de me déployer, il va me déployer ma tâche sur les différents nœuds. D'accord. Donc Marathon est un framework de Mesos. Mesos va consommer ça et après parler à l'ensemble du cluster. Donc là, c'est en train de running. Si je retourne ici sur mon serveur Mesos. Donc c'est pas, je vais rafraîchir parce que c'est pas toujours instantané. Mais si, là on voit les tâches actives. Donc on voit que j'ai 5 tâches qui sont en train de tourner.
Running.
Just now. Si on clique sur Sandbox, on va pouvoir voir ici, par exemple, le steady out, donc le retour en fait de ce qui est exécuté. Donc là on voit effectivement que j'ai Hello qui est affiché. Ouais, c'est très impressionnant.
Magnifique.
Je sais, mais là, c'est juste le but de la démo. Quant à Chronos, voilà, on connaît une interface différente, hein, c'est un outil différent. Et on peut ici effectivement créer un nouveau job. On donne un nom au job, hein, donc on peut l'appeler voilà, Stan MVA par exemple. Lui donner une description, faire une commande. Donc là pareil, je préfère une commande de type echo. Et puis après dire, bah voilà, tu vas me répéter ça toutes les une minute. Et là, il me répétera ça toutes les minutes. Et ce sera une tâche qui sera de manière récurrente. Voilà. Donc là, mes tâches sont en train de tourner régulièrement, puis là, toc, Marathon me redémarre. Dès que la tâche, elle tombe, elle s'arrête, pouf, il la redémarre, parce que c'est le but hein, de garder les tâches sur le long terme. Du coup, on voit la mémoire qui est consommée, on voit le nombre de CPU et le nombre de tâches. Donc on peut voir ici le déploiement. Non, il n'y a pas de déploiement en cours actuellement. Hop. Et si je reviens sur mon cluster Mesos, je vois que c'est en train de tourner, et puis j'ai mon historique des tâches qui ont été complétées, qui sont terminées, qui sont redémarrées, etc. Et on voit sur combien d'agents j'ai déployé le tout. Donc j'ai dit, hein, je faisais ça sur 5.
Oui.
Donc voilà, là après bah, il tourne au fur et à mesure, hein. il gère tout seul sa petite vie du cluster. Et on voit qu'en termes de ressources,
on utilise 5 CPU.
On utilise effectivement 5 CPU utilisés, ça représente 80 mégas de mémoire. Mm. En tout cas un gros, enfin un écho,
ouais,
c'est un gros écho. Et donc, sans rien connaître à l'installation, la configuration d'un cluster Mesos, l'installation, la configuration de Marathon ou de Chronos, en fait, mon modèle ARM a fait tout pour moi. C'est-à-dire qu'il a créé les machines virtuelles, il a paramétré les environnements, il m'a créé la machine d'administration. Le tout avec un modèle, vous l'avez vu, qui est un petit peu complexe. L'idée, effectivement, de l'étape suivante avec Azure Container Service, c'est de faire abstraction de toute la complexité, entre guillemets, de réutiliser un modèle. Et directement dans des interfaces, de dire, ben voilà, je vais dans l'interface d'Azure Container Service, on dira, je veux tant de managers, tant de machines virtuelles et tant de bétail derrière pour monter en charge, tout simplement. Voilà pour ce qu'on sait faire aujourd'hui.
Super, ben on va passer à la synthèse de ce cours MVA.
Oui.
Donc on a vu les efforts qui ont été produits pendant 18 mois, les 18 derniers mois sur l'intégration, enfin sur le partenariat avec Docker et toute l'intégration de Docker dans les technologies Azure. Donc la Docker Trusted Registry sous forme de composants dans le marketplace, les extensions Docker des machines virtuelles, le support de Swarm et Docker Compose qu'on a vu également. Mm-hmm. Et puis la VM Docker prête à l'emploi faite avec Canonical. Et puis l'intégration de tout ce qui est outils de management et de déploiement et de développement, etc. Donc avec Visual Studio, avec le Docker CLI pour Windows. Et puis l'API Docker qui va évoluer, qui va prendre en compte tout ce qui est container Windows dans Windows Server 2016. Voilà. Au-delà de ça,
Notre futur proche, c'est Azure Container Service, où l'objectif clairement pour nous est de simplifier le déploiement et le cluster de services, donc le cluster de containers, en utilisant Azure plus la solution des COS de Mesosphère, hein, qui, je le rappelle, intègre notamment Mesos, Marathon, Chronos, En attendant, c'est également de fournir un provider ARM pour les containers, donc permettant de créer rapidement en fait, des clusters de containers simplement par utilisant l'API qui sera disponible ou la ligne de commande PowerShell. Donc ça va arriver prochainement.
Et donc, en attendant d'avoir ce modèle complet qui utilise vraiment les technos de l'état de l'art avec des COS, et bien deux modèles ARM qui nous simplifient le déploiement et qui vous permettent aujourd'hui de déployer très simplement des clusters, que ce soit des clusters Swarm ou des clusters Mesos, voilà. Mesosphère.
Oui, Mesos, Kronos et Marathon. Là, on a fait Mesosphère pour simplifier, mais c'est l'idée.
Des COS.
Exactement. Voilà, ce cours qui était un petit peu long et riche se termine. Vous pouvez nous retrouver sur d'autres cours en français faits par les mêmes personnes, plus Arnaud qui va nous rejoindre dans le prochain cours sur ak.ms/mvfr. Vous retrouverez classé par sujet l'ensemble des cours en français que nous avons créés pour vous. Il y en a un autre qui s'appelle Introduction aux conteneurs, dans lequel on rentre un peu plus sur les conteneurs Windows qu'on a un petit peu évoqué durant cette session. On vous remercie encore de votre attention et à bientôt sur la plateforme MVA.
Merci.